Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors je suis Stéphane Moïsakis, c'est moi, et je suis avec mon ami Julien Charpentier.
Bonjour. Salut Stéphane, Julien. Bonjour à tous.
Pour parler d'un film que tu affectionnes particulièrement, Julien, on a fait un sondage sur Internet pour demander aux gens, parmi une série de films, en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on traite éventuellement dans Stéroïdes, le podcast. Et il est arrivé en bonne position. Et il s'agit de Roadhouse de Roddy Harrington, produit par Joel Silver avec Patrick Swayze. Moi, je dis Swayze. Comment tu dis, toi?
Swayze. En fait, ça se dit Swayze de toute façon. Ouais. Mais bon, Swayze ou Swayze, les deux passent. Hein.
Et alors, j'ai une confession à faire qui va peut-être en énerver certains. Hein. Moi, je n'ai jamais aimé ce film. Je le dis d'entrée de jeu parce que je sais qu'il y a des gens que ça fait râler. J'ai jamais aimé ce film et je l'ai revu et j'aime toujours pas. Mais j'ai en face de moi quelqu'un qui aime ce film.
Oui,
sincèrement.
Sincèrement. Déjà, je n'aime les films que sincèrement. Même quand ce sont des films qui me font marrer, je les aime avec amour. Et celui-là, je l'aime d'un amour profond. Parce qu'il y a un quelque chose dans ce film qui est assez... assez années 80, et c'est une époque que nous connaissons tous les deux fort bien. Et puis, il y a un ensemble d'ingrédients relativement étonnants, je trouve. Roadhouse est à la fois un film tout à fait typique des années 80, mais alors dans toute son exubérance, dans toute son sens de la punchline, dans toute parfois sa bêtise un peu assumée, qui moi me transporte à chaque fois. Je me dis, tiens, je sais pas quoi regarder ce soir, j'ai envie de passer un bon moment avec Patrick Swayze qui fracasse des gueules. Allez, c'est parti, Roadhouse.
Ok. Alors, est-ce que tu vas nous déjà nous pitcher le film?
Eh ben, le pitch en lui-même, il est déjà intéressant en soi, parce que pour moi, c'est un pitch qui résume tout à fait la décennie 80. C'est-à-dire que dans la décennie 80, on était capable de te dire, ok, on va prendre un sujet, quel qu'il soit, mais le mec, ce sera le meilleur, ok? Et quoi qu'il fasse, c'est le meilleur. Donc là, on te parle quand même, globalement, on dit, ok, c'est super, c'est l'histoire d'un mec, tu vois, dans la vie, il est videur, tu vois. Donc normalement, tu fais, ouais, ok, super. Et là, on fait, ouais, mais c'est pas n'importe quel videur, c'est le meilleur. Et on te vend ça, tu vois, c'est Citizen Kane, le truc, c'est le mec, c'est le meilleur dans son boulot. Du coup, t'as le monde entier qui le respecte. Et du coup, on vient le chercher dans la boîte où il travaille pour lui dire, écoute, moi j'ai ouvert une boîte quelque part au fin fond du Kansas.
C'est un taudis le truc.
Qui s'appelle le Double Juice. Le Double Juice.
Putain, il a mis son t-shirt.
J'ai le t-shirt Double Juice.
Vous pouvez pas le voir, mais il a mis effectivement, je déconne pas, c'est pour de vrai, il a le t-shirt Double Juice, ok.
Et il lui dit, viens dans ma boîte, tu vas m'aider à la réparer parce que y a des méchants et il faut qu'on combatte les méchants pour que ma boîte, elle soit mieux. C'est à peu près ça le pitch.
Ça c'est le pitch, mais bon, en fait, tu t'exagères un petit peu quand même. Parce
à peine.
Ouais.
Globalement, il y a vraiment cette espèce d'exubérance-là que moi, je trouve vraiment très années 80, de dire « Mais pourquoi l'histoire d'un videur, ça m'intéresserait ? Et pourquoi le fait qu'un videur soit le meilleur, c'est un truc
un
qui
argument
cool.
pour faire un film.
c'est
surtout ça, quoi.
Pourquoi c'est un argument pour faire un film ? Mais c'est fait avec une telle... Alors déjà, je trouve que c'est fait avec une... C'est fait avec une vraie, presque authenticité, mais en tout cas une vraie sincérité. C'est-à-dire que tant qu'à faire ce film-là, on va y aller à fond.
Mmh, mmh.
Et comment on y va à fond ? Bah, en fait, on va y aller simplement, on va se dire, ok, c'est très bien. L'histoire du videur, c'est un prétexte. Et ce qu'on va faire, c'est une structure de western absolue. Mais absolue. C'est l'histoire du lonesome cowboy solitaire qui arrive dans une ville. La ville est tenue par un mania, quel qu'il soit, que ce soit le mec qui tient le saloon. Là, c'est un mania qui possède toute la ville. Et l'étranger va défier petit à petit le mania. Et pour avoir des relations sociales, t'as le saloon, quel Double Juice. T'as la doctoresse, dont il tombe amoureux. T'as vraiment tous les ingrédients du western. Les hommes de main qui sont très très méchants, qui sont là aussi. Donc t'as une vraie dynamique de western que je trouve assez étonnante de voir dans un film des années 80 et qui fonctionne, à mon sens, plutôt pas trop mal.
Alors, Moi, je vais un peu tempérer ce que tu dis quand même. Là, c'est là où je rentre en ligne de compte. C'est que, en fait, alors oui, c'est une dynamique de western, c'est évident que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Le problème, en fait, c'est qu'on perd littéralement la noblesse du genre, en fait, dans le comportement des personnages. C'est-à-dire que, en gros, le premier point, c'est que c'est pas des colts, c'est pas des trucs comme ça, c'est de la baston, mais du kickboxing déjà.
Ouais.
Donc, bon, je sais que c'était à la mode à l'époque, mais quand même, tu vois. Et puis là, j'échange littéralement pas mon baril de Van Damme contre trois barils de Patrick Swayze, quoi. Parce qu'il est peut-être très physique, il n'y a pas de problème et tout ça, etc., etc. Mais pour moi, ça a toujours été un leading man de films romantiques, en fait. Et en fait, il a tendance déjà à pousser vachement le film dans cette direction. En tout cas plus qu'un film d'action de Joel Silver habituel, tu vois, on va dire, parce que c'est produit par Joel Silver, il faut aussi le rappeler, quoi. Et même si ça, je trouve, ça ressemble pas tant que ça à un film de Joel Silver, malheureusement. En tout cas, les bons.
ça y est, ça commence.
Non, mais voilà, bah ouais, j'avais prévenu que j'aimais pas le film, mais je l'ai revu exprès. Et l'autre truc, c'est que d'un seul coup, il y a même pas ce que, éventuellement, parce que j'allais dire, en fait, le problème, c'est que ces personnages-là, c'est tous des beaufs. Y compris Patrick Swayze, honnêtement. Hein. Bon, parce que déjà, c'est la fête au mulet. Tu vois, je veux dire, littéralement, ils ont tous un mulet dans ce film, quoi.
Ouais.
À part Ben Gazzara. Mais tu vois, tu parlais du mania de la ville, en fait, qui, on va dire, c'est un emploi, si vous avez des références de western, c'est un emploi que Gene Hackman a eu dans Impitoyable, par exemple, ce genre de choses, quoi. Mm-hmm. Même si là, c'est le shérif, en l'occurrence, mais c'est quelqu'un qui, voilà. Sauf que, en fait, Gene Hackman, il fait peur, quoi. Ben Gazzara, j'arrive pas à croire, si tu veux, c'est quand même le combat final avec Ben Gazzara, et tu fais, mais pourquoi? C'est pourquoi en fait, pourquoi est-ce que c'est lui qu'on garde en dernier?
Bah parce qu'effectivement, le combat final, il a lieu un peu avant parce qu'il est avec un homme de main qui est voilà. aussi physique que Patrick Swayze. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt un combat qui tient plutôt bien la route dans la mesure où on a quand même deux acteurs qui sont vraiment des acteurs physiques. Mmh. Faut le préciser, t'as parlé de Joel Silver, mais il y a une équipe technique sur ce film qui est relativement ahurissante.
Oui, oui, c'est-à-dire que, alors, c'est vrai que si tu compares ça aux autres films de Roddy Harrington, par exemple, hein, déjà, là, t'as un scope léché, c'est Dean Cundey.
C'est Dean Cundey à la photo, donc.
De Carpenter, quand même.
De Retour vers le futur, voilà. De Jurassic Park, enfin, c'est une brute.
C'est une pointure, quoi. Et en fait, le truc, c'est que du coup, là-dessus, on peut pas dire que c'est pas soigné, c'est vrai.
Au niveau du montage.
C'est qui déjà?
C'est Uri Host, le monteur
Robocop,
de Die Hard, voilà. Robocop, Total Recall.
Ah, bon, le mec, il a pas la même matos, hein. Sous la main.
C'est quand même un très bon monteur, quoi qu'il en soit.
Certes.
À la musique, on a Michael Kamen.
C'est pareil, je trouve que c'est pas du tout son meilleur score.
Faut dire aussi que t'as l'impression, alors j'ai pas pu vérifier l'information, mais t'as l'impression que c'est un film qui a été monté avec une temp track basée à grands coups d'Arme Fatale et à grands coups de Die Hard, et après ils ont demandé à Michael Kamen, bah écoute, fais ce qui est déjà fait, en fait.
Bah, il avait une très bonne relation avec Joel Silver, de toute façon, à l'époque. Mais en fait, ce que j'allais dire par rapport à tout ça, c'est justement l'un des problèmes du film, c'est que pour moi, en tout cas, en fait, c'est difficile de. Je trouve que c'est. Alors, j'espère que les gens dans les commentaires vont peut-être s'expliquer là-dessus, comme toi, tu le fais maintenant, sur les raisons fondamentales de leur amour pour ce film, parce que globalement, pour moi, c'est un film qui est vraiment entre deux. C'est-à-dire que c'est pas assez beauf, bourrin, qu'on te fout de la country partout et que c'est vraiment le truc qui essaye d'appâter le redneck, si tu veux, pour venir voir le film dans la salle. Parce que c'est ce que je disais, t'as d'un côté, t'as Patrick Swayze qui fait le beau gosse tout le temps. T'as une portion assez importante, en fait, de son histoire d'amour avec Kelly Lynch, quoi. T'as des bastons, finalement, moi, je trouve assez molles, hein, en vrai, pour moi. C'est tout le problème. Après, ça peut être bien réglé, mais je les trouve pas très bien filmées, quoi, pas très excitantes, quoi. Mm-hmm. Et donc, ça va pas assez loin dans ce truc-là. Et inversement, ça va pas du tout, même, en fait, j'ai envie de dire, dans ce qui, moi, m'aurait pu m'intéresser aujourd'hui, me dire, tiens, le film, il tient la route 30 ans après, même si c'est un truc des années 80, même si etc., etc., parce que c'est un film sur les prolos, quoi. Et voilà, on aime les prolos, on le traite en fait sous cet angle-là, on a vraiment envie de montrer que ça peut être des personnages, peuvent ressortir leur noblesse, on va dire, etc., etc. Ce qui aurait été peut-être le petit truc dramatique supplémentaire, tu vois, qui aurait fait finalement que j'aurais trouvé le film un peu sincère. Parce que là, le problème, c'est que je trouve vraiment entre deux, t'as l'impression que tout le monde a essayé de tirer un peu, c'est-à-dire Joel Silver qui s'est dit, bon, allez, on va foutre de la violence, tu vois, vas-y. Alors Ben Gazzara, je spoil, hein, je suis désolé, mais il se fait buter par 15 coups de fusil à pompe.
Alors, dans le point overkill d'un stéroïde vidéo, il pourrait passer. Hein.
Mais c'est clair, il se fait juste littéralement overkiller, quoi. Mais même l'autre, là, le mec dont tu parles, il se fait exploser,
il se fait arracher la gorge.
D'un coup de main, tu vois, et tu te dis, mais c'est Swayze. c'est pas Schwarzenegger, tu vois. C'est pas, comment t'appelles ça, c'est pas Total Recall pour prendre une référence de l'époque, tu vois. Mm-hmm. Ça reste quand même, je trouve, assez propre, quoi, tu vois. C'est, bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu sens que, voilà, en fait, c'est-à-dire que soit ils te saupoudrent aussi le truc de philosophie asiatique, de machin, si tu veux, qui fonctionne pas du tout, c'est pareil, t'y crois
pas
une seconde, quoi.
Mais c'est marrant parce que tu dis que Patrick Swayze, pour toi, tire le film vers le romantisme. Et en même temps, tu te dis, mais si on regarde la carrière de Patrick Swayze, en tout cas la carrière, on va dire, populaire de Patrick Swayze, qui a été très très courte, au final, c'est quoi? C'est 87-91, quoi. Il y a globalement deux films romantiques, deux films d'action, et t'as l'impression que bah, Roadhouse, c'est un peu la, le truc qui scinde les deux parties de sa carrière.
Et alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je vois ce que tu veux dire, mais... En vrai, déjà, en fait, on parle de deux films romantiques qui se posent quand même là. C'est-à-dire, en gros, je pense que si tu regardes ce sujet-là, si tu veux, si tu vas vraiment dans ce genre-là, Dirty Dancing et Ghost, c'est des films qui sont encore extraordinairement populaires aujourd'hui.
Oui.
Il a cette aura de héros, voilà. C'est, on le sait, hein, que c'est un acteur physique. Patrick Swayze, faut être aveugle pour pas le voir, en fait. Si tu veux, ça se voit. Il est hyper bien gaulé. Il fait ses trucs. Il y a pas de problème. C'est, voilà. Moi, j'ai jamais apprécié Patrick Swayze en tant qu'acteur, vraiment. Genre, le seul film où je l'aime bien, ça va à peu près, c'est Point Break. C'est vraiment le seul film, genre, en général, j'ai pas de... Voilà, je sais bien que le pauvre monsieur est mort il y a une dizaine d'années maintenant et tout, et qu'il avait ses fans, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je l'ai jamais conçu comme un héros d'action. C'est-à-dire, quand on me dit qu'il aurait dû jouer, par exemple, ce qui était le cas, en fait, le rôle de Cash dans Tango et Cash, tu vois, mais Dieu merci, c'est Kurt Russell. Quand on t'explique qu'il devait jouer le personnage principal de Predator à la place de Predator 2 à la place de... Même si je trouve que c'est un miscast, Danny Glover, mais Dieu merci que ce soit pas... Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de... Déjà, je trouve que c'est pas un excellent acteur, vraiment. Vraiment, je le trouve très limité.
T'es dur.
Ouais, je sais. Mais après, là, je te parle de... Je sors du cadre du fait que le monsieur est mort, qu'il a sa légende à lui, ça, etc., etc. Mais en fait, c'est vraiment quelqu'un que j'ai jamais apprécié. J'allais vraiment pas vers lui. Et Roadhouse... parlons de... Voilà, moi, le problème que j'ai avec un truc comme ça, c'est que... On va en parler sur d'autres épisodes qu'on va faire ensemble, tu vois, mais en fait, pour moi, un héros d'action, il est censé avoir une vraie physicalité, et t'as des acteurs, ils l'ont, et t'as des acteurs, ils l'ont pas. Et c'est-à-dire que même si lui, il est physique, et je trouve qu'il est, probablement très impressionnant sur un tatami, tu vois, il est probablement très impressionnant, si tu veux, dans des trucs de danse, quand tu le vois en vrai, tout ça, etc., etc. Il est probablement très technique, mais je trouve qu'il ne parle pas à la caméra. Et du coup, en fait, c'est mon problème que j'ai avec Roadhouse, c'est que du coup, j'ai pas de plaisir à regarder les bastons du film, que je trouve finalement
là tu vois par exemple on a par exemple un premier désaccord moi je trouve que les danseurs parce qu'à la base Patrick Swayze est un danseur je trouve que les danseurs ils ont une physicalité une capacité d'occuper l'espace que je trouve assez formidable il y a que ce soit chez Patrick Swayze ou plus récemment chez Sofia Boutella, je trouve que ce sont des gens, quand ils arrivent devant la caméra et qu'ils bougent, je trouve ça beau, je trouve ça gracieux, je trouve ça intéressant. Et donc, du coup, moi, l'occupation de l'espace par Patrick Swayze, c'est quelque chose que je trouve presque beau à regarder. Comme un Van Damme est presque un danseur, plus qu'un...
Un chorégraphe, en tout cas.
Voilà, plus qu'un Steven Seagal qui, lui, va mettre une grosse tatane dans la gueule hyper rapide parce qu'il va à l'efficacité. Là, on a quelque chose qui est beau. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que Patrick Swayze a une occupation de l'espace qui est différente, qui est originale. Tu as dit que c'était la fête au mulet. Bon, ben ça, c'est l'époque qui veut ça.
Oui, puis, enfin, t'as plein de films où c'est pas la fête au mulet de cette époque-là. Hein.
Oui, enfin, tu sais, c'est comme tout. Le mulet, aujourd'hui, on s'en moque. Dans 3 ans, sera de nouveau à la mode. C'est le principe de la mode.
Je crois que ça aurait jamais dû être à la mode, ce truc, le mulet.
Tout est cyclique. Donc, ça reviendra. Faut pas que tu t'inquiètes. T'as des gens, dans 3 ans, qui vont dire « Le mulet, c'est tellement cool !» Et tu vas faire « Non !» Où tu vas faire, bah oui, je sais, suivant ton bord au niveau du mulet. Mais fondamentalement, oui, le film est marqué dans son époque, mais bon, comme absolument tous les films au final.
Oui, en fait, moi c'est surtout, je te dis, en fait, le problème, c'est que par exemple, quand on parle de baston de bar, de trucs comme ça, qui c'est quand même un truc un peu justement typique de truc de saloon, tu vois, par exemple, et pourtant, c'est assez gracieux la façon dont c'est fait en général. Je trouve que c'est plus dynamique, même dans une comédie de Blake Edwards, tu vois. C'est ça le truc. Et je parle même pas de gag, hein. Je parle vraiment, en fait, de baston en général. J'adore ça, les bastons, moi, général. Dans les bars, je trouve c'est un truc super, tu vois. Mais là, en fait, il y en a 2-3 dans le film,
ouais.
Et je les trouve, ouais, cheap, quoi. Mais de toute façon, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la scène d'action, tout ce qui est de l'ordre de tu vois, c'est-à-dire pareil. En fait, ça va pas assez loin, tu vois. Il y a un monster truck. Moi, j'adore les monster trucks, tu vois. Mais en fait, c'est une scène pas terrible, quoi, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça, en fait. Et je trouve que c'est un film qui va pas assez loin. C'est pour ça que je suis très étonné, parce que je constate, hein, déjà, parce qu'on a fait ce petit sondage sur, à notre niveau, hein, sur l'Insta de Capture. Je constate qu'il y a des fans de Roadhouse.
Ouais.
Il faut qu'il y ait des fans de Roadhouse pour qu'il y ait des mecs qui fassent des t-shirts que tu portes, quoi, tu vois. Tu es un fan de Roadhouse, voilà, oui, aussi. Mais, en fait, mais assez... c'est un film qui, pour moi, va pas loin, va pas aussi loin qu'il devrait aller, quoi.
Il y a, dans les fans de Roadhouse, je pense qu'il y a la même chose que dans les fans de Steven Seagal. C'est-à-dire que t'as ceux qui aiment le film sincèrement et ceux qui aiment pour s'en moquer. J'ai pas de proportion, mais tu sais, aux États-Unis, ils appellent ça les cult classiques. C'est les fameux films qu'on regarde et qu'on appelle avec des guillemets, parce que moi je suis pas un gros fan de ça, des films tellement mauvais qu'on se met à les adorer. Et il y a beaucoup de gens qui aiment Roadhouse pour ça, parce qu'ils disent bah, de toute façon, le film est pourri, mais il nous fait rire. Ça, c'est une première frange, et elle vaut ce qu'elle vaut, hein, je la juge pas. T'as la deuxième frange qui est celle qui aime sincèrement le film. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième. Je sais qu'il y a pas mal de gens probablement qui vont dire mais il est taré, ce film est nul.
Non, je pense que tu vas. En fait, je pense que tu vas être leur bouée de sauvetage sur ce podcast. Voilà. Parce qu'on va, je te dis, on va encore râler sur le fait qu'on traite un film où on n'est pas d'accord, si tu veux. Mais pour moi, c'est pas très grave. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important. Et surtout pour des films en fait qui ont justement une espèce d'aura de Madeleine en fait.
Il y a aussi ça. Il y a aussi l'aura de Madeleine, parce qu'il faut se souvenir que donc Patrick Swayze sortait de Dirty Dancing, qui avait été à l'époque mais un carton qui est difficilement imaginable pour un petit film, parce que c'est un truc tout petit, hein. C'est quoi, on est sur 3 millions de budget pour Dirty Dancing, je crois, hein, je suis pas tout à fait sûr. Par contre, je suis sûr des recettes, le film il avait fait 210 millions monde. Si tu le faisais aujourd'hui, ça te ferait un 500 millions pour un film qui a coûté le budget d'un Blumhouse. Donc on sortait d'un carton inimaginable, et au final Roadhouse en salle, ça a été une déception, hein. C'est un film qui avait un budget plus que correct. Déjà, on a parlé de l'équipe technique. Bah, des gens comme ça, ils sont pas gratuits. Hein. On a un budget qui est aux alentours de 15, ce qui, à l'époque, était un budget pas fort, mais moyen. Moyen, moyen plus. Et il a rapporté 30. Donc, en exploitation salle, c'est pas un film qui a marché du tout. C'est un film qui s'est construit avec les vidéos, mais aussi parce qu'il a les oripeaux de ce qu'on indéfini de ce qu'on aime dans une exploitation vidéo. C'est un film qui est facile à regarder, c'est un film où il y a un peu de baston, un peu d'amour, un peu d'humour, un peu de punchline. Donc il y a tous ces petits trucs qu'on aime voir dans les films, dans le film du samedi soir. Et il a tous les ingrédients du film du samedi soir. Tu trouves qu'il pousse pas assez, et je te le conseille, hein, qu'il va pas assez sur une direction. Ok, il va pas assez à fond vers où tu aurais voulu qu'il aille, mais il a tous les petits ingrédients qui plaisent.
Mais alors moi, tu vois, il y a aussi des problématiques d'écriture dans ce film. C'est-à-dire que, en fait, moi, c'est un film que j'avais pas revu depuis 25 ans. C'est-à-dire, j'ai vu le film deux fois avant. C'était une fois en salle à l'époque, où j'étais genre, rien à foutre. Vraiment, en plus, moi, j'allais voir tous les Joel Silver à l'époque. C'était vraiment, j'étais déjà en train de percuter les noms des prods et tout ça, etc., etc. Et vraiment, je suis sorti, je me suis dit, putain, c'est le mec qui a fait Die Hard, c'est le mec qui a fait tout ça, etc., etc. Et sans attendre Die Hard, évidemment, faut pas déconner. Je veux dire, moi, je me contentais de peu à l'époque, tu vois, et je l'ai pas eu. C'est un film que j'ai revu quelques années après en vidéo, tu vois, en VHS ou en DVD, je sais plus, tu vois. Non, en VHS, je pense. Et en fait, 25 ans ont passé avant qu'on se décide à le traiter aujourd'hui et que je le revoie, tu vois. Et honnêtement, je suis abasourdi par des problématiques d'écriture, mais genre basiques, quoi. C'est-à-dire que quand Ben Gazzara prend le Monster Truck pour défoncer une concession auto d'un mec qu'on a quasiment pas vu du film, si tu veux, et là d'un seul coup, mais t'as Patrick Swayze qui pète un plomb, tu sais, qui devient fou, qui dit je faut que je le pousse sa gueule à cet enculé, etc., etc. 10 minutes après, il tue son meilleur ami, et là, si tu veux, en fait, la rage elle était déjà là, quoi, si tu veux. Donc c'est des trucs où tu te dis, mais c'est, enfin, en fait, ménagez vos effets, les mecs, je sais pas, dans votre écriture, enfin, faut trouver des trucs pour que ça soit cohérent, quoi, tu vois. Le truc de, il a un master en philosophie, tu fais, mais pourquoi? C'est Patrick Swayze qui l'a rajouté, c'est pas possible, ça sert à rien, tu vois, il y a même pas une phrase. Parce que c'est ça que j'adorais dans les films de cette époque-là, c'est quand t'avais une bande-annonce qui commençait avec une phrase de Platon. C'est un truc comme ça qui était quand même le truc, tu sais, Hollywood qui te sortait des phrases de philo grec et tout, tu vois. Tu venais fou, quoi.
Bah là, t'as le célèbre pendant qu'il se fait raccommoder, le célèbre Pain Don't Hurt. La douleur, ça fait pas mal.
Ouais, mais sauf que ça marche tellement mieux dans Terminator.
Non, c'est pas le même niveau.
C'est une information, quoi.
Non, mais Stéphane, Terminator, c'est un chef-d'œuvre. Roadhouse, c'en est pas un.
Ce que je veux dire, sauf que tu vois, c'est un chef-d'œuvre pour nous. C'est-à-dire que si tu parles à des gens qui regardent des films de l'extérieur, si tu veux, t'auras pas mal de gens qui vont t'expliquer que c'est quand même un film de bourrin à la base, tu vois. Et en tout cas, clairement, à la sortie du film, c'était cette logique-là.
Oui, mais en fait, là, pour le coup, le temps parle pour nous. C'est-à-dire que c'est un film aujourd'hui qui est encore cité comme un classique. Roadhouse, c'est cité comme un petit film culte, un peu sympa, un peu rigolo, en sachant que oui, le degré de philosophie, pour moi, ça fait partie de cette exubérance 80 dont je te parlais tout à l'heure.
Ce que je voulais dire, en fait, si je reviens sur le truc, excuse-moi, de Terminator, c'est juste pour dire que en fait, la phrase, elle est cohérente avec le personnage, elle est cohérente avec Kyle Reese dans Terminator. Là, elle n'est pas cohérente du tout avec le personnage de comment il s'appelle, de Patrick Swayze, quoi.
Mais arrête de chercher l'écriture de James Cameron dans un film qui équivaut à Steven Seagal.
Sans parler de l'écriture, attends, sans parler de l'écriture de James Cameron, je cherche.
Bah, c'est ce que tu viens de faire.
Là, j'ai pris un bon exemple, mais un exemple où c'est réussi. Pour donner un exemple où c'est réussi, parce que sinon les gens vont pas forcément comprendre de quoi je parle. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est juste en fait avoir un personnage qui est censé être le personnage avec lequel je suis censé m'attacher, moi, et qui est mon point de référence. En fait, poursuivre l'idée de récit du film, tu vois, que je comprends. Moi, en fait, si tu veux, j'ai une vision du cinéma d'action qui c'est mon genre préféré. Mm-hmm. Donc, le truc, si tu veux, c'est que j'ai une vision du cinéma d'action où mon exigence, on va dire, elle va pas forcément. Il y a plein de films de merde que j'aime, hein. J'en ai conscience, tu vois.
Enfin, mais en fait. Nos auditeurs, peut-être pas, mais moi, je sais.
Non, mais voilà, il y a plein de films de merde que j'aime et qui ont peut-être un passe-droit, mais c'est, en vrai, c'est pas un passe-droit nostalgique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu vois. C'est vraiment un truc de où je me dis, ok, en fait, ce film-là, il y croit. Ce film-là, ils ont essayé de faire un truc. Là, t'as l'impression que c'est Patrick Swayze qui s'est pointé, qui a mis ses trois marottes à lui. Tu vois, parce que en fait, le truc de la philo, le truc de comment t'appelles ça, du bouddhisme et tout ça, etc., et c'est déjà dans Point Break aussi.
Et
c'est
une
déjà
scène de sexe sur These Arms of Mine qui était déjà dans Dirty Dancing.
Il a bien avoir des scènes de sexe sur These Arms of Mine. Donc en fait, il a ces petites marottes comme ça, mais en fait, on lui a filé parce que c'est le premier rôle, tu vois. Mais en fait, ça ne fit pas avec le reste du film, quoi.
Mais c'est ce que tu viens de dire avant. C'est en fait, on aime le cinéma d'action et donc on a des passe-droits, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va effacer parce qu'on a un attachement au film. Tu n'as pas d'attachement à Roadhouse, donc tu ne vois que ses défauts. Moi, je lui donne des passe-droits en me disant, ok, moi, cette histoire de bouncer, enfin de couleur, parce qu'il y a plusieurs genres de videurs, hein, sachez-le, moment culture, il y a le bouncer, donc celui qui est le videur à l'intérieur de la boîte de nuit, celui qui tape, et il y a le couleur, celui qui maintient l'ambiance, et celui qui fait des gestes de la tête pour dire c'est le moment où tu tapes. C'est l'intelligent de la bande. Et le fait que...
Ok, ouais,
j'ai essayé. Le fait est que moi, ce mélange-là de ce mec philosophe qui va vivre une histoire d'amour, qui a son mentor classique, hein, l'histoire du mentor qui va arriver dans l'histoire, et puis, bon, on a dit qu'on spoilait, de toute façon, on parle de Roadhouse. Hein. C'est le mentor qui va mourir et qui va déclencher la colère, tout ça, moi, ça me satisfait. Le fait que le mentor soit joué par Sam Elliott dans le rôle de Sam Elliott, je trouve que ça marche très très bien.
Bon, c'est pas le problème, c'est pas Sam Elliott. À la limite, il serait pas dans le film, j'aurais pas compris, quoi. Enfin, c'est Sam Elliott, tu le mets pas, je sais pas, tu le mets pas dans un Woody Allen, quoi.
Non.
Mais... Ou alors il faut vraiment qu'il joue le mec qui vient de la campagne, quoi.
Bah, il joue Sam Elliott, hein, pour le coup, ouais, c'est voilà. le cheveu cras, le mec qui aime le whisky, le mec qui a la voix cassée, et je trouve qu'il le fait
et
très
qui,
bien.
Qui avait peut-être 40 ans à l'époque, mais t'as l'impression qu'il en avait déjà 75, ouais, quoi.
T'as l'impression qu'il est déjà fatigué, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et puis, ouais, il y a plein de petits plaisirs dans ce film-là.
Alors vas-y, parce que justement, alors revends-le-moi.
Mais en fait, j'essaye. Je te dis, c'est un film qui est très bien fait en termes techniques. Belle photo, belle musique, beau montage. Je te dis, il y a un acteur qui est honnêtement quelqu'un qui occupe bien l'espace parce que c'est un danseur. Je peux te dire qu'il y a un travail sur la musique qui est très intéressant aussi. Alors, faut savoir que le chanteur, quand le Double Juice, c'est donc une boîte qui fait de la musique live. Et la musique live est jouée par un type qui pose sa guitare sur ses genoux, qui s'appelle Jeff Ellis. Et Jeff Ellis, bah, c'était vraiment un musicien qui est vraiment aveugle et qui jouait vraiment comme ça. Mmh. Et du coup, t'as pas mal de reprises de blues qui font que, à l'époque des années 80, où t'avais quand même la musique majoritaire, était bien souvent synthé dans les,
Oui.
Là, tout d'un coup, t'as un truc qui revient au blues, qui revient au rock, et donc, t'as de la musique que t'as pas l'habitude d'entendre. Enfin, il y a tout ce mélange d'ingrédients qui fait que moi, au final, c'est un film que je vois, peut-être, avec un côté Madeleine de Proust, mais aussi avec un vrai plaisir. Moi, j'ai un sourire à la banane pendant les deux heures, quoi. D'ailleurs, j'ai un quiz pour toi.
Oh là.
Est-ce que tu connais le rapport entre Roddy Harrington et Quentin Tarantino?
Non.
Ouais, ça m'étonne pas, parce qu'elle est un peu tirée par les cheveux. En fait, l'ouverture du film Roadhouse, c'est sur un morceau d'un groupe qui s'appelle The Cruzados, et The Cruzados, c'est le groupe de Tito Lariva.
Mais oui, mais je suis con, parce qu'en fait, effectivement, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais c'est le mec de From Dust Till Dawn.
Absolument, voilà, effectivement Tito Lariva qui a fait son groupe, et dans la célèbre scène de Striptease de Salma Hayek, c'est Tito Lariva qui chante avec
son
groupe.
T'es là, t'es malhonnête, parce que t'aurais dû dire c'est quoi le rapport entre Roddy Harrington et Robert Rodriguez, tu vois.
Qui c'est qui a écrit le scénario?
Ouais, bon, qui c'est qui a fait le film, quoi? Tu vois, je veux dire, et malheureusement, ça se voit, tu vois. Mais c'est pas un podcast sur Union en Enfer. Mais d'accord, et c'était le seul quiz que
t'as? Ouais, c'était le seul quiz.
Y a qu'une seule question.
Ouais, écoute, c'était un quiz à une question.
Bon, d'accord. Alors,
déjà, j'ai trouvé un quiz, c'est pas mal.
Alors, tes scènes préférées?
Alors, j'aime beaucoup la scène justement d'intro où on te présente le personnage comme le meilleur du monde. Tu sais, où il regarde la salle en secouant la tête parce qu'il aime bien la zik. Puis tout d'un coup, il voit un mec au fond, il fait. Vous pouvez pas le voir, mais donc il secoue la tête un peu plus fort pour dire ok, tu lui pètes la gueule. Moi, je trouve que c'est une belle introduction de personnage. J'aime beaucoup la baston avec Marshall Teague, donc qui est le henchman principal, l'homme de main principal. J'aime bien le personnage de Wade Garrett.
Là,
donc,
tu parles de celle où il s'est barré en moto et il le défonce.
Voilà, c'est celle où il le pourrit pour de bon. C'est une scène que j'aime beaucoup.
Bah, qui est d'ailleurs, si je dis pas de conneries, l'ex d'un personnage. Qui essaye de se taper Patrick Swayze quoi dans le film.
Pardon ?
Il y a un moment donné en fait il est avec une nana qui drague Patrick Swayze, c'est pour ça qu'ils ont un problème entre eux en fait.
Non, c'est parce que c'est l'ex du patron, c'est l'ex de Ben Gazzara.
C'est l'ex du patron, ouais, d'accord. Ouais. Okay.
C'est pour ça qu'il dit tu touches
ça,
pas.
En fait, j'ai pas tout compris au film.
Ouais, c'est un film beaucoup plus complexe que tu vois. T'as pas tout pigé.
Ouais, c'est Matrix Reloaded en fait.
À peine.
Matrix Reloaded.
Moi j'aime beaucoup le personnage de Wade Garrett et toutes les scènes qu'il a parce que je trouve qu'il apporte une dose d'humanité alors qu'il a 10-15 minutes à l'écran. Déjà parce qu'il a une punchline et j'aime beaucoup les punchlines. Tu en souviens pas de la punchline ?
Vas-y. Bah ouais, toi tu les regardes en VF, enfin, moi je les regarde.
Tu veux te battre le nuque ? Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. C'est top, c'est génial.
Mais ça c'est de la VF ça.
Bah évidemment, c'est comme un Steven Seagal en français, Roadhouse.
Tu me dis deux trucs, tu me donnes deux infos contradictoires. Tu viens de dire, moi j'aime le film sincèrement, pour des raisons, si tu veux, de qualité, et là tu me parles de Steven Seagal.
Mais parce que j'aime profondément les premiers Steven Seagal, et je les aime en VF, mais j'aime les premiers polars de Steven, je les aime vraiment.
Messieurs, dames, je découvre des choses en enregistrant ce podcast, d'ailleurs, alors que je connais Julien depuis 10 ans. Et...
Qui est le scénariste question quiz, quel est le point commun, maintenant j'ai un peu répondu, mais quel est le point commun entre Justice Sauvage et Roadhouse?
C'est le même scénariste.
C'est le même scénariste. Ouais. C'est un mec qui sait ce qu'il fait, tu vois. Précis.
Ouais, alors moi, tu vois, Justice Sauvage, c'est pas le scénar, tu vois, qui me transporte.
C'est John Flynn plutôt.
John Flynn, et puis il utilise des saucissons pour taper sur la gueule des mecs, et voilà, enfin, tu vois, c'est
un mec qui s'appelle R. Lance Hill.
Oui, voilà, tout à fait.
Sous un pseudo, David Lee Henry. Et il a signé ces deux scénarios-là. Donc, j'ai fait des quiz pour toi, pour essayer de t'intéresser au film. J'ai l'impression que j'y arrive pas du tout. Attends, j'ai un troisième quiz. Attends, j'en ai un troisième. Est-ce que tu connais le slogan du film à l'époque qui jouait sur la vibe Dirty Dancing ?
Non. Ah oui, attends, il renverse les... Attends, c'est quoi ? Il renverse les cœurs ? Non, c'est dans...
Je la connais qu'en VO.
Non, ça, c'est Cocktail, non ? Ça, c'est pas ça ?
C'est Cocktail.
Il renverse les cœurs. Ah, vas-y, alors, vas-y.
Là, c'est... Now the dancing is over, now it's getting dirty.
Ouais, d'accord.
Dirty Dancing.
Ouais, d'accord, ok.
Donc pour ceux qui parlent pas anglais, la danse c'est terminé, maintenant ça va devenir sale.
Ouais, ok. Est-ce qu'on parle de... parce que en fait, c'est quand même un podcast sur les cinémas d'action, hein. Mm-hmm. faut arrêter maintenant les conneries, quoi. Est-ce qu'on parle de Benny the Jet Urquidez ?
Moi je le connaissais mal, donc je vais te laisser faire.
Bah,
c'est l'entraîneur sur Roadhouse de Patrick Swayze.
En l'occurrence, et puis surtout un gros, comment dire, ponte du kickboxing, en fait, à Hollywood notamment. Alors, soyons honnêtes, quelqu'un de très physique, mais quelqu'un qui a vraiment pas le charisme pour passer à l'écran. Hein. Benny the Jet Urquidez, alors je sais pas si. Déjà, il a fait un paquet de séries B et puis M, mais aussi, c'est-à-dire en tant que. Premier rôle, second rôle, tête d'affiche avec quelqu'un d'autre en général, ce genre de choses quoi.
PM, c'est-à-dire des petits films de vidéoclub
Ouais, les PM Entertainment, les trucs comme ça, c'est-à-dire c'était une boîte en fait qui faisait ça dans les années 90, enfin surtout 90 quoi, et qui avait pris le creux de la vague en fait avec les sorties vidéo quoi, c'est-à-dire tous ces films d'action, on le sait que si tu veux, t'avais une bonne marge en fait qui fonctionnait en salle quand c'était Van Damme, quand c'était justement ces trucs-là quoi, mais derrière en fait si tu veux, il y a eu une vague de sous-kickboxer movies, parce que là c'est pareil, c'est Roadhouse, on peut pas vraiment dire que c'est un film de kickboxing, même
non.
Si techniquement la baston c'est du kickboxing en fait dans le film quoi, d'où la présence de Benny the Jet, c'est son surnom, Urquidez quoi, et en fait en gros lui-même disait en gros Urquidez qu'il était hyper impressionné par les prouesses physiques de Patrick Swayze et qu'il était quasiment persuadé qu'il pouvait passer pro en fait sur le film quoi. Moi ça se voit pas à l'écran en fait, j'entends encore une fois que le truc est pas magnifié, c'est-à-dire Van Damme on dira ce qu'on veut et c'est de la mise en scène basique la plupart du temps, hein, faut être honnête quoi, mais c'était de la mise en scène qui mettait vraiment en valeur les coups et les prouesses physiques en fait de Van Damme, donc dès qu'il faisait un roundhouse, dès qu'il faisait un truc comme ça, t'avais un ralenti, t'avais un truc que t'as pas du tout en fait dans Roadhouse à la fin, Ce qui fait que c'est très technique quand tu les vois le faire, tu vois. Mais je trouve que c'est un peu filmé de loin, un peu ci, un peu ça, tu vois. Je trouve qu'il y a un vrai manque, en fait, de mise en valeur de la chorégraphie, quoi.
En sachant qu'ils ont eu un pépin supplémentaire, c'est que si Patrick Swayze est devenu acteur, c'est parce qu'il était danseur et il s'est ruiné le genou en faisant de la danse. Donc il est passé à l'acteur. L'un de ses premiers rôles, ça a été L'Aube Rouge. Il y en a eu quelques-uns avant, mais je m'en souviens plus. Et puis sur Dirty Dancing, il était l'un des initiateurs du projet parce qu'il adorait le fait de pouvoir montrer que la danse, ça pouvait être quelque chose de beau à l'écran. Sauf que ça tapait sur le genou. Et quand il a fait Roadhouse, en fait, il en était au stade effectivement où il avait des infiltrations de façon régulière parce qu'il avait le genou qui lui posait beaucoup de problèmes sur le tournage. Ça peut-être expliquer le fait que parfois c'est un peu cuté ou parfois c'est filmé d'un peu loin, même si moi je te dis, je trouve vraiment que la baston au bord du lac, elle fonctionne, je trouve qu'elle a un vrai impact, quoi.
Moi je pense que c'est plus des capacités de réal en fait à la fin, c'est à dire que en fait
ce bon vieux Roddy,
bah ouais, et tu sais, on a fait on a peut-être pas encore passé, ceci étant dit, au moment où on enregistre, et puis en fait on va peut-être passer Roadhouse avant, on a fait un enregistrement sur de Steroids sur
son autre film
Piège en eau trouble avec Mathieu Gallet, et on en parle aussi, Alors c'est Mathieu Gallet qui a fait le podcast avec moi, oui. Tu vois, il sera content que tu le compares, mais en gros, c'est quelqu'un qui a disparu de la circulation. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que genou pété pour genou pété, en fait, il fait ses cascades dans Point Break.
Mais pour le coup,
elles sont vraiment mises en valeur. C'est-à-dire que t'as une vraie poursuite, en fait, tu sens le truc.
T'as pas vraiment besoin de me convaincre que Catherine Bigelow est une meilleure réalisatrice que Roddy Harrington. Voilà. Hein.
Pour finir
une
sur
génie, Roddy. Ouais.
Pour finir sur ma petite incursion pour parler de Benny Jodet Turquides, vous l'avez peut-être vu dans... Alors, c'est un film qui n'est pas sorti en salle en France, mais qui était sorti en vidéo, qui a un petit culte aux États-Unis qui s'appelle Gross Point Blank, qui est un film avec John Cusack.
Et
il joue un tueur à gages, en fait, à la fin du film. Et il a notamment une scène de baston de kickboxing dans un couloir d'école. Donc voilà, c'est Benny Jodet Turquides. C'est une petite légende d'Hollywood, en tout cas au niveau du kickboxing.
Il a jamais franchi la barre du cinéma mainstream, mais c'était devenu un entraîneur relativement souvent, donc plutôt derrière, et il avait des caméos dans les films. D'ailleurs, je crois qu'il a un petit caméo dans
Roadhouse. Ouais, il apparaît dans le bar vite fait au fond d'un truc, quoi. Mais c'est vrai que pour finir sur Roadhouse, disons que, enfin, sauf si t'as peut-être des trucs à rajouter, je ne sais pas.
J'ai la vague impression que je t'ai pas totalement convaincu.
Et à plus forte raison que j'allais dire, si tu veux, moi j'adore à la base ce type de cinéma-là, en fait, si tu veux, j'adore quand les mecs poussent le truc, c'est-à-dire que quand t'as des vrais trolls, quand t'as des vrais trucs, etc., etc. Là, mais il est où Danny Trejo? Il est où
T'as Ben Gazzara, c'est une gueule,
Ben Gazzara, c'est une gueule, mais moi je l'aime pour que son travail soit caché Cassavetes, tu vois. C'est ça le truc, en fait, c'est que j'ai du mal à le... Tu vois, pour moi, c'est littéralement, en fait, Enfin, il vient cachetonner, ça se voit, en fait, si tu veux, mais à 300%.
Tu me demandes où sont les trolls, il y en a.
Tu me diras, ça sera exactement la même chose avec Tommy Lee Jones et dans Under Siege, hein, tu vois, dans Piège en haute mer. Je sais très bien qu'il vient cachetonner, mais en fait, il fait tellement n'importe quoi qu'au moins, c'est rigolo, tu vois. Là, Ben Gazzara, il est censé faire le mec suave et menaçant, et j'ai beau trouver que c'est un excellent acteur, et c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Tu vois, tu crois pas. Il est pas menaçant pour deux sous. Tu vois. Et voilà. Patrick Swayze, comme je l'ai dit, je trouve que c'est pas un acteur de voilà. Et donc, même, tu vois, par exemple, sur les hommes de main dont on parle, tu vois, il y a un gros, par exemple, si tu veux,
j'ai l'impression
de voir une bouboule dans un film, dans un jeu de baston des années 80.
D'un autre côté,
quoi.
Tu me dis, je voudrais qu'il y ait une plus belle représentation du col bleu et du redneck. Et en même temps, quand on t'en présente, tu dis, c'est une bouboule.
Il n'existe pas, ce perso.
Mais si, il existe.
Non, il n'existe pas. Il est là dans le film, mais en fait, il n'a rien à jouer. Tu vois, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est quand je parle de représentation du col bleu, c'est plus une manière de dire, si tu veux, faire ressortir en fait une noblesse. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Tu vois, enfin, pour moi, il n'y a rien de tout ça. Mais pour moi, tu vois, genre, on va peut-être laisser les auditeurs en juger après derrière. Mais voilà, moi, je...
Ben ouais, je serais intéressé de savoir justement si les auditeurs aiment Roadhouse, ou n'aiment pas d'ailleurs, ils ont le droit, mais s'ils l'aiment pour un côté juste parce qu'ils aiment bien se foutre de la gueule du film et regarder du popcorn, ou s'ils l'aiment sincèrement,
Je pense que t'as raison, je pense qu'il y a des deux.
Mais j'aimerais bien savoir, vraiment, moi ça m'intéresse. Je réponds jamais parce qu'en fait, je sais même pas ce que c'est qu'un réseau social, mais je lis quand même les commentaires.
Sur, bah, en tout cas, les commentaires sur YouTube, par exemple.
Les commentaires sur YouTube, je les lis tous. Ouais. Donc ça, moi, je suis intéressé de savoir ce qui vous plaît, si ce film vous plaît. Parce que déjà, j'aimerais bien être moins seul, parce que là, après avoir discuté pendant 20 minutes avec Stéphane,
ouais, 35 minutes,
hein. je m'en veux un peu, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas bien, des Merodaus. Donc aidez-moi.
Mais si, mais c'est, tu fais ce que tu veux. On a tous nos déviances, tu vois. Mais tu me la présentes comme quelque chose que t'aimes sincèrement.
J'aime sincèrement.
En fait, attention, c'est un film de qualité.
Non, j'aime sincèrement, ça ne veut pas dire ça de qualité, okay, j'aime sincèrement.
Okay. Ouais, moi j'ai un dernier trivia pour toi, il paraît que Bill Murray, quand à chaque fois qu'il voit le film passer à la télé, en fait, et notamment quand il y a la scène de cul...
Il appellerait le mari de Kelly Lynch pour lui dire « c'est pas mal hein, quand même hein. ».
C'est très bien, parce que c'est là où t'as envie de te dire pourquoi c'est pas Bill Murray qui joue dans le film. Quoi.
Parce que Bill Murray, bon, non, je vais rien dire, ouais. Moi j'aime pas
non,
beaucoup.
Parce que là, tu vois, tu vas te péter ta street cred, tout le monde est là, putain, il est bien ce charpentier, il aime bien Roadhouse, tu vois, et là tu vas commencer à dire du mal de Bill Murray, ça va pas passer.
Je sais qu'il faut pas.
Y compris ouais. Auprès des fans de Story.
Ouais, je sais qu'il faut pas. Mais j'aime pas vraiment Bill Murray, c'est une feignasse.
On en reste là ?
On en reste là. Patrick, tu nous manques.
D'accord, ok. Bon, bah là, c'était un cri du cœur. Merci monsieur Julien Charpentier.
Ben, merci de m'avoir invité.
Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont subi, je pense, pas détestation, c'est un grand mot quand même, mais...
Ton peu d'amour.
Voilà, mon manque d'amour en tout cas pour Roadhouse. J'aurais dû prévenir en fait avant qu'on fasse le sondage, mais malheureusement des fois ça arrive. Merci à nos auditeurs, donc merci à nos tipeurs, hein, grâce à qui on fait ce genre d'émission. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux habituels. Et il faut remercier Alain, putain il me pointe du doigt. Mais tu sais moi Alain, il est là ?
Ouais.
Ah oui il est là, tiens c'est vrai.
C'est grâce à lui qu'on a du son en fait.
C'est,
hein.
Vrai ah, ouais, c'est vrai, si vous nous entendez, parce que j'aurais pu parler dans le vide, j'aurais pu faire... Et vous aurez rien entendu, quoi. Mais en fait, c'est grâce à lui, quoi. Donc merci à la technique. Voilà, lui, il aime beaucoup Roadhouse. En plus, je pense qu'il aurait dû venir au micro pour en parler.
Il a pas la tête de quelqu'un qui aime beaucoup Roadhouse.
J'en ai un bon souvenir.
Ah. C'est bien. Voilà, très bien. Continue comme ça.
Je sais pas si vous l'avez entendu. Il a dit qu'il en avait un bon souvenir. Voilà. Vous avez laissé finir cette putain d'émission ou j'ai le droit, hein, bordel de merde. Bref. Donc merci aux tipeurs. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, hein, Twitter, Instagram, Facebook. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas encore TikTok, mais bon. J'essaye de convaincre Julien de se mettre dessus. Quoi.
Non, je te verrais bien danser. Moi, non, j'ai pas les autres. Je peux pas commencer avec celui-là.
Non, mais je peux pas me comparer à Patrick. Et en fait, je crois qu'on va en rester là, en vrai, hein, si tu veux. Donc, si vous voulez si vous voulez toujours nous soutenir, c'est sur Tipeee. Donc, 3e, tipeee.com. Et le mot-clé, c'est Capture Mag. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine avec probablement un film que j'aime un peu plus.
Merci, au revoir.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.